Donc, le titre, c'est l'écriture de Jean-Luc Lagarde, de l'impossibilité de modifier son histoire. Entre-temps, la pensée a un peu avancé, le titre a légèrement bougé. Il s'agira donc de l'écriture de Jean-Luc Lagarde, deux points, de l'impossibilité de modifier son histoire, point d'interrogation. On verra donc que la question reste ouverte. La réflexion portera exclusivement sur le pays lointain. Les textes de Lagarde donc mettent parfois en scène des personnages qui revisitent leur passé. Et le dialogue ne parvient pas à avancer et suscite un ressassement incessant dans une volonté de préciser une histoire, son histoire passée. Dès lors, le récit se propage dans le drame, altérant l'avancée du temps, élargissant la présence-absence d'un hors-champ passé. Et selon nous, ce récit pourrait être intimement lié au processus de la reconnaissance. Cette notion, définie par Aristote dans la Poétique, comme, je cite, « renversement qui fait passer de l'ignorance à la connaissance, révélant hostilité entre ceux qui sont désignés pour le bonheur ou le malheur ». Donc l'agnition, c'est un mécanisme de renversement qui fait découvrir quelque chose. Une identité est l'auteur d'une action. Oedipe découvre qui il est et ce qu'il a fait. Or, ce mécanisme, ce renversement fait découvrir le plus souvent une identité cachée et met à jour donc le fait que quelqu'un peut être auteur d'une action. Or, le pays lointain est miné par ce possible renversement. Le retour est indiqué dès le début et mime le retournement du personnage sur lui-même. Le spectateur connaît les motivations de Louis, ce personnage principal, entre guillemets, et l'éclatement d'une vérité est toujours attendu. Or, ce processus est mis à mal quand l'identité fait défaut, quand la définition de soi est toujours retardée. Donc, en nous appuyant sur le pays lointain, nous observerons les déraillements de ce mécanisme de reconnaissance. Le rôle pour le lecteur-spectateur des indices d'identité. En nous attachant ensuite à la prolifération du récit, à sa construction interne, afin de montrer comment l'impossible reconnaissance de soi dépend de la relation distendue qu'entretiennent ces personnages de Lagarde, des personnages qui semblent irrémédiablement condamnés au monologue. Première grande partie, donc, les déraillements des mécanismes de la reconnaissance, et je vais donc observer la question du temps, de l'espace et le rapport à soi. Donc, le mécanisme de la reconnaissance entre en relation avec les indices spatio-temporels, qui permettent de constituer, entre guillemets, une biographie possible d'un personnage. Or, l'écoulement du temps, évidemment, dans cette pièce est très perturbé. Dès le début, Louis précise « J'ai près de 40 ans maintenant, et c'est à cet âge que je mourrai ». La certitude de l'action à venir invalide un possible écoulement du temps de manière ordinaire. La mort prochaine et sûre précipite les possibles retournements de situation. Le temps testamentaire est défini par l'urgence de la situation qui s'impose. Cette rapidité est renforcée par la motivation de Louis. Non seulement le personnage a pris la décision de revenir voir les siens, mais il souhaite aussi, je cite, « régler cette affaire » ou encore, je cite, « ce qu'on n'a pas dit et qu'on souhaite dire avant de disparaître ». On ne le gardera pas dans la tête, on s'en débarrassera. La manière de dire indique là aussi l'urgence de la parole. Il s'agit d'extraire de soi au plus vite des mots, ce qui soulagera et permettra d'attendre la mort. Deux certitudes conduisent donc le propos. Un achèvement, une révélation. La pièce pourrait se développer au sens aristotélicien vers une catastrophe finale en succombant juste à la rapidité. Mais un certain nombre d'indices sèment le trouble. Les vivants et les morts ont la possibilité de dialoguer. La frontière qui les sépare est devenue poreuse, comme si Louis était proche de l'autre bord. Cette proximité de la mort non seulement accélère le temps, mais aussi perturbe les actions faites. Le temps presse. L'amant mort déjà précise que Louis pensait ne pas venir et ajoute « J'ai à peine le dos tourné, tu te précipites ». Cette précipitation devrait conduire Louis à aller droit au but dans les échanges. Mais un autre indice annonce des revirements possibles de l'action. Louis a juré qu'il ne chercherait pas à revenir. Or, cette certitude du propos devant témoin ne l'a pas empêché de changer sa décision. Il a triché, conclut Longue Date. Et Longue Date donne la motivation de ce retour de Louis. Je cite « Organiser sa vie, ce que fut sa vie, comme il l'imagine. Le voyage consiste non pas à découvrir quelque chose, mais à renouer avec ce qu'il a quitté, mettre de l'ordre dans ce passé et non pas lui laisser le désordre issu de ses contradictions, de ses choix arbitraires. » Et en même temps, c'est un passé de la pensée, un passé imaginaire, issu de l'esprit de Louis. Le début met donc l'accent sur l'écart entre ce retour et de possibles retrouvailles. L'amant mort déjà précise la nature de ce retour. Histoire de ce voyage, et de cela, tout cela perdu de vue, qu'il rencontre et retrouve, qu'il cherche à rencontrer. et retrouvée. Le substantif « histoire » fait entendre le plan de la fiction, associé aux véritables retrouvailles. Et la dernière partie du commentaire évoque l'impossibilité. Il cherche à rencontrer. L'écueil de la rencontre et de la retrouvaille est déjà annoncé. Et Louis dit, à l'heure de sa mort, pouvoir juste régler quelques comptes, revoir quelques erreurs, terminer ce qu'on abandonna, s'excuser de ses mensonges, finir les conversations inachevées, conversations en suspens qui toujours nous préoccupèrent et obtenir l'exacte vérité. Le retour est motivé par Louis, par la découverte de la vérité, à travers des échanges autrefois interrompus. Il s'agit de renouer le dialogue, reprendre ces mots en suspens, comme le temps est resté suspendu dans sans doute à certains silences. Il s'agit de retrouver des échanges passés et de leur donner suite. Mais l'intention est donc décalée. Elle annonce déjà qu'elle ne prend pas en compte le fait que les interlocuteurs ont changé, que les sujets de conversation, les motivations des dialogues ne sont plus les mêmes. Ainsi, la proximité de la mort, qui devrait accélérer les révélations, conduit plutôt à escamoter les rencontres. Au lieu de mieux chercher à apprendre l'autre, Louis va rester au seuil apparent des relations. Car cette rencontre, cette retrouvaille, n'est pas une découverte, mais la volonté de revivre, de refaire. Comme nous le précisions, le terme « histoire » montre le décollement du réel et l'espace possible pour une fiction. Nous retrouvons dans le propos de l'amant mort déjà le mot « exacte vérité » proche de « légende ». L'exacte vérité, impossible à atteindre, rejoint un fond mythique qui fait de toute vérité personnelle autre chose. Chacun se construit sa légende. S'associe donc à cet espace particulier un hors-champ envahissant. Ce retour dans un autre temps qui serait resté en suspens s'associe à un espace hors-temps. En effet, ces rencontres nécessitent de retourner dans un endroit isolé. Je passe sur tout ce qui caractérise cet endroit, ce coin-là, comme il dit. C'est un endroit à la fois caractérisé comme contemporain, en tant que région industrielle, mais aussi un endroit inaccessible et surtout capable de rendre captif celui qui reste. Il est intéressant d'observer le rapport de Suzanne à ce lieu, qui peut-être un jour partira, et puis Antoine, qui lui, s'est bien ancré dans le lieu, et il a des chances de ne pas partir. C'est en tout cas un lieu de nulle part, propice à un ralentissement du temps. Louis est celui qui a fait l'effort de partir, il y a longtemps, et de revenir pour retrouver ceux qui sont restés. Et en ce sens, ce double mouvement pourrait traduire un engagement fort dans une action. Peut-être que le rapport au lieu diffère d'un rapport au temps. En tout cas, les deux notions révèlent un rapport à soi particulier. Louis a d'abord promis de ne pas chercher à revenir. Je cite. Il jure que jamais plus, à l'instant où la mort viendra le prendre à son tour, il jure que jamais plus il ne bougera, il ne retournera nulle part en arrière, ne regardera rien, ne lira pas ce qui est écrit, ne fera pas le rangement de sa vie. Ne collera pas les photographies dans un album. Il jure qu'il ne cherchera pas à changer ce qui fut. Dans ses promesses, longue date montre quelle perception Louis a de lui-même. Personnage statique, qui bouge dans le passé, le retour en arrière, retour sur soi. Contemplatif, lecteur, ordonné, qui colle des photos. Ces éléments montrent un rapport à soi qui passe donc par l'image fixe, l'image classée. Et tous ces éléments en négatif se multiplient comme pour exposer les différentes actions peut-être accomplies, mais aussi peut-être accomplies par tous. Actions que lui a fini par refuser, puisqu'il est là, puisque peut-être il les a toutes faites. L'action qui reste à faire, donc, est aller sur mes traces et refaire le voyage. C'est lui qui le dit. C'est donc un personnage statique qui se met en marche et explore ce qu'il a pu laisser comme souvenir chez les autres et ce qu'il laissera définitivement bientôt. Il ne reste alors qu'à faire, je cite, le voyage d'un homme jeune à l'heure de sa mort, regardant tout ce que fut sa vie. Le marcheur se fait voyeur. Ainsi, Louis est moins celui qui va entrer dans les dialogues que celui qui reste sur le seuil au long d'un voyage où les rencontres ne sont que des étapes furtives. Le temps est en suspens, et il retourne dans le lieu pour y superposer son souvenir. Mais ce retour, outre les souvenirs qui sont associés au lieu retrouvé, va laisser venir l'évocation de toutes les rencontres qu'il a faites dans d'autres lieux, d'autres temps. Ainsi, en gigogne, le lieu est toujours le prétexte pour évoquer un ailleurs. L'ici est contaminé par là-bas, et maintenant, par hier. Dès lors, comment ces diverses évocations pourraient assurer la possibilité de distinguer une identité constante à travers des rencontres ? Il s'agit de repérer des éléments qui pourraient le définir, qui seraient maintenus dans le temps, dans la mémoire des autres. L'identité de Louis ne peut se définir que par ce prisme de l'altérité. Or, cette définition court le risque, évidemment, de l'éclatement des discours contradictoires. Dans les dernières lignes de la pièce, Louis précise enfin « Après ce que je fais, je pars. Je ne reviens plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus. une chose dont je me souviens et que je raconte encore. Après, j'en aurai fini. L'ensemble de la pièce est donc la narration d'un personnage mort qui peut habilement mélanger les strates temporelles et rapporter les événements et les discours confondus. En cela, elle rejoint ce propos de Lagarce que l'on trouve dans Du luxe et de l'impuissance. Nous mourons, nous sommes morts, nous regardons le spectacle. Tout nous est spectacle, la vie nous quitte. Nous ne nous interrogeons plus, nous nous aimons, tel que nous avons patiemment décidé d'être. Nous trichons. L'ensemble du discours est voué à cette tricherie, celle de la fiction. Il s'agit pour le lecteur-spectateur de dissocier le personnage de Louis, pris dans ses rencontres, de celui qui les évoque, ou de jouer, de la mise en présence par la voix, de l'ici maintenant, du jeu de ses voix éparses. Je vais donc passer à ma deuxième partie, le rôle pour le lecteur-spectateur des indices d'identité. J'essaie d'aller plus vite, hein.
Ah, ça va.
Ah bon,
va.
Ah bah alors je vais continuer comme ça. Donc je vais essayer, de manière assez rapide quand même, de passer sur la liste des personnages, sur les deux familles, sur les éléments qu'on donne sur le caractère de Louis et sur la part manquante de cette identité. Donc pour assurer une permanence identitaire, eh bien, ce personnage de Louis pourrait se distinguer des autres personnages. Or, l'ensemble de la pièce laisse planer des zones d'ombre sur la nature réelle, pour lui, ou fictionnelle, de ses personnages. Alors, on pourrait observer la liste de personnages. Et là, quand même, je vais vite. Hein. C'est-à-dire que dans cette liste de personnages, on pourrait trouver des éléments sur les liens familiaux, sur les entités représentatives d'une multitude, sur les personnages qui se distinguent, la mère, Hélène, sur longue date, à la fois messager, conteur, omniscient, pas omniscient, bon, qui peut être neutre et puis pourtant juger le comportement, bon, et puis l'ami le plus sûr. Bon, hop, quand même, je passe. Je vais retenir quand même l'élément qui me semble intéressant, la question du nom. C'est-à-dire que le prénom de Louis est donné assez tôt par Hélène, qui présente sa relation avec longue date. Et quand Louis redonne son prénom, il est sujet à commentaire. Voilà ce qu'il dit. « Tu ne t'es pas toujours donné autant de mal. Le nombre de fois où tu n'as même pas jugé utile de nous informer de ton nom, prénom. Nombreux ceux-là que tu dis regretter aujourd'hui et qui ne pourraient pas même, s'ils le voulaient, te retrouver. Leur manque cet indice-là, minimum. » Le nom, donc, est le moyen d'identifier, de retrouver. Et l'amant mort déjà dit ne pas l'avoir connu immédiatement. Tu me l'as dit, mine de rien, comme tu fais toujours, et plus loin encore. Savoir ton nom, ton prénom, j'en avais peur. Cela créerait le début de quelque chose, des liens. Et je me méfiais de cela. J'en ai peur. Ce rapport au prénom révèle un lien entre la désignation et l'intime. Ceux qu'il rencontre ne connaissent pas cette part essentielle de lui-même, apparemment. Sa famille la connaît, bien sûr, et pourtant ignore beaucoup de sa vie. La rencontre dans l'obscurité restait-elle au seuil des choses? Mais bien sûr, où est le seuil des choses et où est le seuil de l'intime? S'associe donc à ces questions du nom, le dédoublement des familles et le secret qui est associé. On peut montrer donc comment la pièce interroge ces doubles facettes de l'intime, du social, de la famille, des amis. L'amant mort déjà évoque la famille qu'ont voulu se choisir, la famille secrète, l'autre famille, celle-là, qui parfois ne sait même pas qu'on se la construisit, sans bruit. Cette double famille, ignorée de l'autre et qui ignore aussi les membres de cette famille-là, creuse des zones d'absence, qui fait de Louis un homme sur le seuil. Longue date, lui aussi, distingue la famille choisie de la famille imposée, précisant qu'elle s'appuie sur les mêmes règles, les mêmes liens secrets, les mêmes antagonismes secrets. Si les premiers témoignages sont ceux des amis qui lui reprochent de ne pas avoir toujours donné son nom et d'avoir fait le choix de la dissimulation, peut-être que cette part secrète au sein de toute famille est celle que l'on pourrait découvrir. Alors, il s'agit de regarder les informations qui sont données par les autres sur son caractère. Ce secret-là pourrait être levé par ces informations données dans tous les discours. Les mots prononcés par les autres pourraient donner ces informations sur le comportement de Louis dans le passé et sur son caractère. Alors ainsi, on peut observer qu'il est froid. C'est les mots de Suzanne. Suzanne qui s'appuie sur bien ce qu'elle connaît de son frère dans le passé, puisqu'elle ignore tout de ce qu'il a vécu après avec la famille choisie. Et finalement, son témoignage est un peu la naïveté de la permanence des choses, parce qu'on croit que les choses vis-à-vis des gens restent peut-être comme on les a connues un temps. La mère, elle, parle du côté calme de son fils, mais aussi du côté détestable et du côté aussi méprisant qu'il peut avoir vis-à-vis des gens. Son père le montre comme calculateur et parle de sa petite prétention à décider de l'ordre des choses. Mais tous ces éléments-là, évidemment, sont à observer de manière précise pour voir comment chacun s'engage dans cette manière de parler de l'autre, parce que le père est montré comme celui qui reste spectateur, il est sur le bord. Même si la critique est forte, il s'agit de voir comment ses commentaires sont vraiment dirigés vers lui ou comment ils ne sont que spectateurs de quelque chose. Et puis il est montré comme inconstant. Hein, ses amis le révèlent comme inconstant. Gonda dit qu'il fallait d'ailleurs se méfier de ce caractère-là, que cette attitude néfaste se propage dans les discours. Mais tous ces dialogues, et je ne vais pas aller dans le détail de ces éléments-là de caractère, tous ces dialogues ne se développent pas. Ce sont souvent l'évocation d'autres personnages qui pourraient à leur tour dire des choses de Louis. Mais la présence de tous ces autres, rencontrés par Louis, eh bien finit par saturer l'espace présent de personnages qui sont absents, qui surgissent de manière furtive du passé. Dès lors, cette surabondance ne vient pas enrichir une éventuelle identité de Louis, mais ouvrir simplement des ramifications dans les rencontres. Et la multitude crée une fausse abondance qui tranche avec l'abandon qu'il a subi. On pourrait retenir donc ces deux éléments-là. Il a subi un abandon et lui-même est abandonnant. Il abandonne les autres. Le fait qu'il ait abandonné, c'est la motivation de son retour. Une relation à l'autre forte qui s'est interrompue de manière brutale. Pour un temps, Louis s'est trouvé isolé. « J'étais là, seul, abandonné », dit-il. Dès les premiers mots de la pièce, Louis se définit par cet abandon. L'autre, celui qu'il aimait, est mort. Et cette part de lui-même disparue, eh bien, il a fait le choix de revenir voir sa famille. Peut-être que la peur de l'abandon, de l'isolement, a conduit sa résolution parce qu'il a peur que sa famille l'oublie à son tour et que ce premier abandon en annonce un autre. Même si cet abandon-là, il l'a souhaité en partie puisqu'il avait fait le choix de quitter cette famille. Plus jeune. Mais il est aussi celui qui est abandonnant. Et longue date évoque tous ceux qui sont peut-être morts de cet abandon. Louis ignore ce que son départ a pu provoquer. Il dit « douleur marquée » dans le cœur des autres. Ainsi, au-delà de tous les éléments qu'on peut avoir au sujet de lui, eh bien, il y a cette part de soi que l'on ne connaît pas. L'identité de Louis se construit sur une part manquante, ce qu'il ne connaît pas des autres, et tout ce que les autres n'ont pas su de lui. Louis dit « je l'aime bien » et il ne l'a jamais su. Je le regrette tout autant que je regrette qu'il ne l'ait jamais su. Ces zones de silence, donc, où une vérité n'a jamais été dite, une confidence jamais prononcée. Les différents témoignages viennent par touche donner des informations sur Louis, mais Louis, lui-même, entre la révélation, la dissimulation, ne connaît pas tout de lui. Louis semble avoir oublié certaines parts de lui, ou reconnaître qu'il ne se connaît pas lui-même entièrement. La relation aux autres pourrait être le moyen peut-être de redécouvrir ses parts de soi, de se retrouver avant la mort. C'est dans le rapprochement avec les autres que le lecteur-spectateur construit, peu à peu, des bribes d'identité de Louis, et notamment dans ce rapport au retour. Car pour combler la part manquante, eh bien, il s'agit de raconter, de redire le passé, dire ce qui n'a pas été dit, révéler des pensées, des rencontres, des actes faits et ceux qui ne sont pas faits, pour mieux tenter de saisir quelque chose d'indéfinissable. Ce passé, eh bien, il est relaté pour évoquer seulement les faits, le souvenir qui lui est associé. Et celui qui prend la parole, eh bien, est un homme extérieur, assis, debout ou couché, parce que spectateur de sa propre vie, parce qu'il en a passé le seuil. Ceux qu'il retrouve après la mort et qui reprennent vie par ses mots sont ceux que l'auteur, la garce, lui, eh bien, a laissés avant. Donc ma troisième partie, eh bien, c'est la prolifération de ce récit, sa construction interne, en abordant donc la question du théâtre dans le théâtre, le texte dans sa dimension écrite, et puis le rapport entre l'épique et le drame. Puisque cette nécessité de raconter, hein, cette prolifération de la dimension épique, eh bien, elle ronge le drame. Et en même temps, ce drame, eh bien, il est réintroduit par le commentaire que les personnages font parce qu'ils sont acteurs et ne cessent de faire référence au théâtre. Hein, hier, on a dit, cette pièce-là, il n'y a pas de théâtre dedans, mais pourtant, il y en a beaucoup quand même. Et ce théâtre-là, donc, c'est toutes les remarques qui portent d'abord sur la dramaturgie. Alors, je ne vais pas aller dans le détail de tout ça, mais ça porte d'abord sur les constituants du drame, sur la question des genres, sur la question de la forme, sur la question du personnage, l'acteur qui évoque son travail en train de se faire. Là, je ne passe pas la citation, je la dis quand même. Quelqu'un qui dit « j'énumère, j'essaie de me souvenir et j'énumère la liste là de tous les personnages que je joue. J'ai appris tout cela par cœur, c'est du travail. » Donc l'acteur montre le travail en train de se faire. Toutes ces remarques-là, et bon, on peut aller dans le détail de la façon dont elles sont introduites, commentées, tout ça, eh bien ces remarques introduisent des commentaires qui sont marqués par l'ironie, due à la nécessité du théâtre. Une sorte aussi peut-être de désenchantement ludique. Le drame est porté par une nécessité de poursuivre, raconter, raconter à tout prix. Ils disent « tu me demandais, je raconte ». Or, cette nécessité, eh bien, elle relève de la narration, hein, et moins du drame en train de se jouer. Mais, évidemment, le théâtre, ce n'est pas seulement donc cette partie dramaturgie, il y a aussi la question de la scénographie qui est abordée. Et là encore, de manière ludique. Souvent, le propos oscille entre la nécessité et la mise en question. Quelqu'un dit « je me méfie des accessoires », ce qui pourrait relever du matériel. Et on peut observer donc ce jeu qui s'instaure parfois entre ce qui est dit dans la didascalie et puis ce qui est dit dans la parole. pas le temps de détailler, mais la maman Mordechai dit quand même, pose la main sur l'épaule de Louis. Donc la maman Mordechai pose la main sur l'épaule de Louis. C'est la didascalie. Et la mère dit, la mère, deux points, je suis la mère. On se met comment ? Ainsi, il y a ce propos récapitulatif de Louis, hein, ce début de contact, et puis le retour aux contingences de la scène, et la comédienne qui dit « mais comment ça se joue ?» La mère qui pourrait donc instaurer un rapport, un contact, quelque chose de charnel, et puis on a le retour aux commentaires sur le jeu en train de se faire. Donc vous voyez comment s'instaure tout le temps des ruptures entre ce qui se fait dans la didascalie du rapport au jeu et ce qui se joue dans la parole. Et le retour au réel du théâtre, aux contingences de la dramaturgie et de la scénographie, eh bien viennent perturber des échanges, mais aussi agir comme des points de repère du théâtre, et puis tout aussitôt à valider. Et cette oscillation perpétuelle, eh bien, empêche tout revirement d'une identité sûre. C'est pour ça qu'il n'y a pas le retournement. Mais il est aussi fait référence au texte écrit. Et là, c'est quelque chose de très particulier encore. Hélène, par exemple, dit « ce que je voulais dire plus haut », au lieu de dire « ce que je voulais dire avant ». En disant plus haut, bien sûr, elle fait référence au texte écrit. Alors, on peut trouver aussi des éléments sur la page, la ligne, les lettres reçues, les fameuses lettres elliptiques qui sont envoyées par Louis. Tout ce rapport à la page, à la lettre, insiste sur l'écoulement du temps et sur la possibilité de quelque chose qui perdure à travers le temps par la trace du mot, l'idée de garder quelque chose. Ainsi, l'écrit s'insinue, là encore, dans la dimension du drame, pas l'épique. Je prends le temps d'un dernier extrait quand même par rapport à cette question. Un garçon, tous les garçons, dit... Je ne sais plus avec exactitude, on note mal. Tu notes mal, tu as écrit ça. Un gigolo efficace. Mais j'imagine que tu ne pensas plus qu'il en avait l'allure, l'allure et l'emploi, le comportement. Mais je ne suis pas certain que tu crus qu'il en avait l'emploi. On fera la scène sans argent. Et Louis dit, je ne suis pas certain qu'on fera la scène. Un garçon, tous les garçons, je raconte. Vous voyez là le rapport entre l'épique et le dramatique. C'est-à-dire qu'un garçon, tous les garçons, a le livre à la main. Ou peut-être les notes mal faites d'un écrivain, comme s'il lisait un journal intime. Et puis il commente le commentaire de Louis et met des doutes sur ses propres commentaires. Il évoque la scène et Louis, tel un régisseur, balaye, commente à son tour la possibilité scénique de la scène. Finalement, un garçon, tous les garçons, substitue à la référence à la scène la suite de la narration. Je raconte, je raconte. Et la remarque laisse entendre que la dimension épique est toujours possible. Ce désir de narration supplante le drame ou vient le contaminer, puisque la narration terminée, hein, donc finalement il y a une narration, et Louis conclut, on dit que la scène est faite. Vous voyez comment la nécessité de la narration, ce désir de la narration, peut devenir aussi un plaisir de la narration, comme une sorte de désir de totalité par le récit. Lorsque la mère dit « l'histoire de tout cela, nous tous, les principaux et tous les autres encore, et le rôle plus ou moins important que chacun joue », s'associe aussi à cette nécessité de poursuivre, à ce plaisir de l'application, la dimension musicale aussi qui peut relayer le récit. Récit de la tempête, je la ferai du mieux que je peux. C'est comme une musique, une sorte de musique. Dire le récit est donc une source de bonheur liée à la possibilité d'une restitution. Et ce récit comporte aussi des limites. Ce plaisir de la précision qui peut introduire un principe de répétition. Par exemple, la pièce commence par la marque temporelle d'un récit en cours, plus tard, l'année d'après. Mais les répétitions du syntagme, l'année d'après, annulent la certitude par la prolifération. Au lieu de préciser, eh bien, la répétition finalement dilue l'information dans une sorte de récitatif. Au lieu de progresser, le récit finit par faire du surplace et restitue la suspension du temps lié au souvenir. La précision relève du commentaire, d'éléments ajoutés en incise, finalement, qui retardent une possible progression du récit. En résumé, donc, ce récit, partagé entre les différents témoins, morts, vivants, ont pour but de préciser le souvenir d'un seul. Ce monodrame est porté par la pluralité qui cherche à restituer un point de vue unique. Et la remarque de Louis, hein, qui peut être régisseur, montre que lui peut avoir le choix. Toutefois, la multiplicité des prises de parole concourt à un effet d'éclatement des discours, partagé entre monologues, je vais montrer que c'est monologue, rarement en véritable dialogue, et rongé par la dimension épique. Tous les éléments qui viennent invalider la reconnaissance sont confortés donc par l'étude du rapport des personnages à leurs propres paroles. Donc dans une quatrième et dernière partie, je vais essayer de montrer comment l'impossible reconnaissance de soi est liée à cette relation distendue qu'entretiennent les personnages. Et cette relation, donc, elle va porter sur le lien à sa propre parole, la nécessité alors d'auxiliaires de parole, la parole chorale, le dialogue qui s'en trouve écarté, les monologues qui sont croisés, le rapport à l'autre et peut-être le rapport entre la parole, la pensée et l'action. Donc, première chose, sa parole comme celle d'un autre. La parole de chacun ne lui appartient pas. Dès le début, le discours de Louis est ponctué par « je dis ça », comme s'il essayait de créer une distance, comme s'il essayait d'ancrer le propos dans une réalité. Il y a donc la volonté de donner une sorte de poids à la parole pour l'ancrer. « Je dis ça ». Et puis, il y a aussi le fait de commenter le choix du mot. La parole est choisie. Il y a énormément de citations, évidemment, qu'on pourrait retenir. Et puis, il s'agit de trouver le mot juste, la tournure la plus proche de l'idée. Trouver, par exemple, une pensée claire, je ne sais pas si je pourrais bien la dire. Et puis, il interroge aussi l'effet que le mot peut produire. Dans tout cela, eh bien, on voit qu'il y a une ironie du choix du vocabulaire, le moyen de cacher une part de soi dans ces mots, qui sont déjà chargés d'un sens que l'on ne maîtrise pas. Évidemment, tout cela est issu de tout ce qu'il a fait dès le départ sur Ionesco et sur la mise en doute des possibilités d'un langage. Et puis, au-delà de la réflexion sur le choix du mot le plus juste, il y a des réflexions sur la décision, la motivation qui pousse à choisir un mot. Toutes ces réflexions sur la langue et sur la possibilité de choisir tel ou tel mot, eh bien, elles liées au fait que Louis est un écrivain dans cette pièce. Et c'est selon Suzanne et Longdate. Et Longdate précise qu'il note tout. Et la parole, finalement, est montrée comme un risque. La parole de l'écrivain, c'est le risque de préférer des phrases bien faites à une réalité inégale, préférer l'organisation de la phrase à l'incohérence du monde, le refuge de la lettre à la réalité de la rencontre, évidemment la fiction au réel. À ce titre, Antoine se méfie des paroles de son frère, Antoine bien ancré dans le lieu. Il dit « Ne commence pas, tu voudras me raconter des histoires, je vais me perdre ». Comme si, eh bien, tous ces échanges étaient minés par cette possible manipulation du réel pour en faire des histoires, parce que Louis est aussi un menteur. Non, j'avais écrit auteur. Il dit encore, c'est cela, c'est exactement cela, ce que je disais, les histoires, et après, on se noie. Et moi, il faut que j'écoute, et je ne saurai jamais ce qui est vrai, ce qui est faux, la part du mensonge. Oui, mais ça. Son frère lui reproche donc d'avoir fait de la famille eh bien, les membres d'une fiction, mais aussi les spectateurs du discours fictif que lui leur propose. Les propos d'Antoine est le reflet possible des pensées eh bien, du lecteur-spectateur, qui ignore les limites mais qui ne reproche pas à l'auteur d'être eh bien, devant des histoires. Ainsi, la difficulté de la délimitation de la reconnaissance tient bien au fait qu'un jeu s'instaure entre chacun des personnages et sa parole et son rôle. Le guerrier, tous les guerriers, évidemment, passent rapidement, par exemple, de la position d'acteur à observateur, commentateur. Mais toutefois, au-delà de ce rapport à la parole, à l'action de l'ensemble des personnages, eh bien, entre les deux familles, celle des amis et celle héritée, eh bien, il y a peut-être une différence. La famille des amis vient reconnaître un certain nombre de changements, des pertes, des disparitions, des renoncements, des mensonges et des révélations. Alors que la famille héritée, eh bien, est peut-être restée figé dans le souvenir. Car si l'ensemble des personnages est défini par ce rapport au passé, le retour de Louis cristallise des discours de reproche autour de lui, de la part de la famille. Et en ce sens, il est bien le personnage principal. Ce retour mobilise des forces qui ne cherchent pas à éclaircir ses motivations et le but de son retour. Comme le souligne le frère, ce retour a quelque chose d'exceptionnel, car la longue absence a créé une attente. Et le frère, eh bien, refuse ce caractère d'exception du retour. Il refuse ce caractère d'exception de cet événement. Il refuse d'entendre à nouveau les histoires. Voilà pourquoi. Il dit « Il y a longtemps que tu ne me connais plus. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne l'as jamais su. Ce n'est pas de ta faute et ce n'est pas de la mienne non plus. Moi non plus, je ne te connais pas. Mais moi, je ne prétends rien. On ne se connaît pas. Et on ne s'imagine pas qu'on dira telle ou telle chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce qu'on veut dire à quelqu'un qu'on imagine, on l'imagine aussi. Des histoires. » Et rien d'autre. Finalement, eh bien, tout est de toute manière imaginaire. La connaissance de l'autre est alors impossible. C'est bien que les paroles finissent par se mêler, et Louis précise, c'est comme la nuit, en pleine journée, on ne voit rien. J'entends juste les bruits, j'écoute, je suis perdu, et je ne retrouve personne. Louis est finalement perdu dans une obscurité où les paroles des autres, eh bien, deviennent des sortes de bruits indistincts. Alors on entend la voix de la mère qui répond à cette porte, comme si Louis, redevenu enfant et même avant la naissance, redevenait celui qui entend des bruits mêlés et ne peut répondre encore par un cri. Mais ces paroles individuelles, eh bien, ces paroles évidemment très lacunaires, nécessitent eh bien des auxiliaires de parole. Alors que Louis multiplie les réticences, qui sont aussi recherche d'une plus grande précision, il reçoit l'appui, la contradiction de ses auxiliaires de parole. L'amant mort déjà, longue date, qui s'unissent pour venir préciser, infléchir son discours. Qui cite ses paroles passées, qui font entendre en se complétant ses contradictions. L'amant mort qui s'appuie sur ce passé commun avec lui, longue date, qui est une sorte de spectateur omniscient, capable de voir Louis dans sa plus grande solitude. Et bien tout cela peuvent compléter, donner l'impression de mieux connaître Louis que lui-même. Mais parce que, évidemment, tous les personnages, tous les comportements sont interchangeables. Comme le dit le père, premier mot qui introduit la famille encore, celle-là dont on hérita ou qui hérita de vous. En tout cela, on entend la réciprocité des relations humaines, à la fois dans le cercle intime, de la famille, du personnage, aussi de manière plus universelle. Qui reçoit l'autre? Qui est frère ou sœur de l'autre? Y a-t-il un ordre, une hiérarchie temporelle ou familiale? Chacun peut venir avec sa vérité, redire les faits ou les paroles, prononcer, préciser, corriger, réfuter. Alors, eh bien, tout cela produit des paroles particulières, des paroles notamment chorales. Je vais peut-être passer rapidement, je ne sais plus où j'en suis. Suscite des paroles chorales, Suzanne, évidemment, qui prend la parole la première fois et qui dit « Nous, les filles, nous nous mettons ensemble, les filles, les femmes de ta vie, le groupe des femmes de ta vie, cela fera chorale. » Donc, elle s'affirme tout aussitôt comme membre d'une communauté du même sexe, du même groupe, ayant une fonction chorale au sein du groupe, elle vient commenter, chanter. Louis l'identifie, c'est ma sœur. Identité qui se rattache à lui. Et puis Suzanne qui précise « Nous vous regarderons ». Alors les femmes sont spectatrices des hommes, représentation d'un public dans la pièce. Il s'agit de trouver dans ce jeu d'oscillation d'une posture à l'autre eh bien des bouts d'identité qui tressent les relations puis après les invalident. Le guerrier, tous les guerriers, lui aussi évoque ce qu'il représente. Il annonce « mon énumération hein, », il porte une énumération. Et nous retrouvons là la référence à la forme du drame, cette nécessité formelle qui implique une présentation. Mais là encore, le personnage est une entité multiple, qui comprend tous ceux qui prennent la parole par sa bouche. Alors le dialogue est écarté. Écarté, mais lorsqu'il revient, eh bien, Louis est dans le passé, moins que dans le présent, et davantage dans l'ailleurs que dans l'ici. Il fuit donc en permanence cette possible interaction, ce possible dialogue, et il s'extrait du contexte de l'énonciation. Le dialogue parfois est amorcé, avec l'arrivée du frère par exemple, mais tout de suite, le conflit s'amorce, et il est écarté, et il ne reste qu'une parole peut-être plus convenue de la sœur. Antoine, lui, se demande même ce qu'on attend de lui dans ses échanges avec le frère. Il dit « Mais pourquoi tu me racontes ça? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Qu'est-ce que je dois répondre? Je dois répondre quelque chose ?» Les amis entre eux ne se lancent pas davantage dans des dialogues et font même parfois le constat de cette absence d'échange. Je cite « Ils ne demandent pas, vous ne demandez pas, personne ne demande, mais est-ce que j'ai souffert moi aussi de devoir tant partager ?» Chacun finit par formuler ce qu'un autre pourrait dire. Toutefois, si le dialogue est écarté, eh bien, c'est aussi pour en montrer le risque, pour mettre en valeur la douleur provoquée par certains mots, de ces mots qui ont dépassé la pensée. Je pense à Antoine à la fin de la pièce, qui propose de les conduire à la gare. Tout s'est arrangé, il est temps de repartir. Hein. Mais dans cette situation de départ, des expressions comme « tout est réglé » ou « une pierre deux coups » prennent soudain un autre sens. Parce que chacun voudrait retenir Louis et n'ose le dire et ne parvient pas à le dire. Et parce que Antoine prend en charge ce départ, il a décidé que tout était réglé, eh bien, il est qualifié de désagréable par sa sœur, brutal par sa femme, et finalement devient agressif en s'adressant à Louis et lui dit « Tu me touches, je te tue ». Cette phrase, eh bien, après l'évocation de la mère, comme une caresse sur la joue de Louis, eh bien, tout d'un coup une phrase toute courte, mais une phrase eh bien résonne comme une forme d'agression. Le lieu, tout d'un coup, devient saturé par ces corps en présence dont ne sortent plus les mots justes. Et l'emballement de la parole eh bien conduit à une situation fausse. Et Louis finit par s'expliquer, demander pardon en s'appuyant sur le souvenir. Le dialogue est écarté et fait face à donc quand même des monologues qui se croisent. Parce que c'est un monologue, un monodrame d'abord. Un monodrame qui conduit à faire du dialogue une série de monologues croisés. Je m'attarderai un tout petit peu sur le monologue de Catherine, qui peut être à ce titre éclairant. Ce monologue qui permet de mettre à jour eh bien, un discours intérieur construit par Catherine, dans lequel elle se rend responsable du non-retour de Louis. Louis n'est pas revenu depuis longtemps, il arrive maintenant, c'est peut-être à cause de moi, voilà ce qu'elle se dit. Or, eh bien, cette responsabilité, eh bien, elle est imaginée par elle. Imaginée pour créer un lien avec Louis. Et créer aussi la souffrance d'être coupable de quelque chose. Elle le dit, elle parle de cette souffrance. Et elle reconnaît tout aussitôt, je voulais imaginer cela, cette idée fausse. Donc elle reconnaît que tout cela est bien imaginé pour elle, dans un but particulier. Et puis elle reconnaît aussi que dans son enfance, déjà, elle a imaginé des choses. Elle dit, tout cela avait été patiemment construit par moi, pour moi, dans le silence. Donc cette idée qu'elle serait responsable de quelque chose, cette idée qui pourrait amorcer un lien à l'autre, eh bien le désamorce tout aussitôt pour centrer la culpabilité sur soi. Le lien à l'autre révèle juste une pensée pour soi et l'absence de tout dialogue. Elle laisse émerger une pensée pour remplir le vide laissé par l'absence de rencontre. Et cependant, par l'absence de rencontre, eh bien l'autre acquiert suffisamment d'importance pour faire naître une idée. Le monologue est donc bien le lieu de la profération d'une pensée silencieuse, une profération motivée par l'existence de l'autre, et non pas par sa présence effective, là, ici, maintenant, mais juste par le fait qu'il est. Il s'agit moins de faire entendre des rencontres que l'effet que ces rencontres peuvent produire ou auraient pu produire. Et le rapport à une action est toujours dévié, produisant une parole à côté, qui ne s'adresse pas vraiment à lui. Ce comportement, imaginé par Catherine, donne des touches d'une identité possible de Louis, qui ne sera jamais définie que par ses discours indirects, ces suppositions dont les doutes ne sont pas levés ou ne sont levés que partiellement. Ainsi, ce que je veux montrer, c'est que Louis, par son absence, parce qu'il était parti, et par ce silence, absence de parole ou lettre elliptique, a produit non pas du discours, parce qu'on ne trouve pas, où les personnages ne rapportent que très rarement des dialogues dont ils seraient le sujet, dans le passé, on n'a pas parlé de lui à ce moment-là, mais en tout cas, des pensées suscitées par lui. Et cependant, lorsque Suzanne évoque un dialogue relatif à l'arrivée de Louis, elle raconte ce qu'elle avait imaginé. Elle dit « il allait arriver à l'improviste » et elle précise « je l'avais dit, est-ce que je ne l'avais pas dit ? Que tous les autres disent que je ne l'avais pas dit, je l'avais dit ou encore ? J'avais dit que tu ferais cela, je leur ai dit, je ne vous l'ai pas dit ?» Ces remarques alternent l'affirmation, le questionnement, mettent en avant un sujet d'énonciation, moi, puis mettent l'accent sur des interlocuteurs. La parole tourne, ne parvient pas à assurer une certitude de qui a parlé à qui. Et personne ne répond, personne ne vient confirmer une situation d'énonciation passée qu'elle rapporte. Cette parole-là qu'elle rapporte, elle dit « j'ai dit, mais cette parole, eh bien, elle peut avoir été lancée vers des interlocuteurs muets ou être restée à l'état de pensée. On n'est jamais sûr de rien. » Le long monologue de Suzanne, qui laisse entendre la douleur d'être restée dans sa famille, le vide de son accent, de son existence habitée par des objets inutiles, semble construit comme une parole qui se clôt sur elle-même. À la fin, elle dit « c'est tout ». Les reproches, la douleur, tout ça c'est dit, mais n'attend pas une réponse qui serait inutile et qui ne fera en aucun cas changer des choses. Lorsque les monologues se rapprochent, eh bien, on peut aussi trouver un vague lien thématique qui pourrait s'opérer. Par exemple, Suzanne parle de l'attente, de l'attente du taxi ou de l'attente de son frère juste avant son arrivée. Et puis Hélène enchaîne avec leur relation à trois et l'attente de la mort, l'attente face à la maladie. Ainsi, il y a l'aspect prosaïque d'une attente de taxi et puis celle de la mort, éliminée par la gravité, qui élimine la gravité, ou qui donne de l'importance à l'anodin, l'attente du taxi, et qui fait résonner à la même échelle, attente du taxi, attente de la mort, et qui fait résonner ensemble des désarrois divers. Au-delà donc d'un réseau thématique, c'est bien la phrase en tant que telle, qui se passe de l'un à l'autre, des mots qui se transmettent de l'un à l'autre avec, parfois, des sens divers, une attente et une autre attente. Alors on peut se poser la question du rapport entre la parole, la pensée et l'action. On peut s'interroger sur le poids des paroles face aux actes. La parole, puisque ça se multiplie, eh bien elle finit par perdre un poids. Un garçon, tous les garçons, soulignent le fait que Louis disait « tu es mon préféré », mais il le disait beaucoup, il le disait à tout le monde, et la répétition a fini par le conduire à ne pas le croire. Par la répétition, la parole se vidait de sens. Et longue date, dès le début de la pièce, énonce « qu'est-ce que cela fait maintenant ? On peut te dire ». Comme si la parole, là, pouvait perdre de son poids, l'impact sur la vie avec le temps et ne plus agir. Et pourtant, eh bien, en étant dites, ces phrases agissent d'une autre manière, en soulageant du non-dit. L'auteur cherche donc bien à obtenir ce lever du voile, cet abandon d'une barrière qui retenait des mots. Venir annoncer sa mort, en être le messager, comme il le dit, c'est bien la motivation principale de Louis. Afin de paraître, il le dit, pouvoir là encore décider. C'est-à-dire donner l'impression de maîtriser certains de ses actes, malgré la certitude de la fin prochaine, avoir un poids encore sur les choses. Mais quel est ce poids? Il dit l'illusion d'être responsable de moi-même. Il dit l'illusion d'être mon propre maître. Il dit encore décider de mon sort. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça voudrait dire être maître du jeu. Ça veut dire se placer au sein du drame. Ça veut dire ce qu'il ne parvient pas à exprimer et que l'auteur, la garce, par la forme, par l'écriture, lui, a peut-être réussi à exprimer. En s'interrogeant sur le poids des paroles face aux actes, parce que Louis ne parvient pas à dire ce pourquoi il était venu, et qu'il reçoit en retour des reproches, mais aussi des preuves d'amour, c'est la question de cette preuve qui est intéressante. Nous nous donnions l'ordre de nous encourager les uns des autres à te donner la preuve que nous t'aimions, plus que jamais tu ne sauras t'en rendre compte. C'est quoi la preuve? La preuve, c'est l'acte. C'est quoi? C'est la manière de s'occuper de l'autre. La preuve, c'est aussi, c'est une phrase dite que chacun retiendra, que chacun regretta d'avoir dit ou de ne pas avoir dit. Catherine dit, Antoine leur parle de vous, mais ce n'est pas l'exacte vérité. Ce n'est pas la même chose que de vous voir là, comme je vous vois. Désormais, je pourrais le raconter, dire comment vous êtes. L'alternance entre ce que l'on voit des autres et ce que l'on dit d'eux aux absents est assez emblématique d'un relais. L'importance du visible est liée à la photographie, à l'image de l'autre que l'on garde, que l'on pose et que l'on regarde. Image filée, figée, encore d'une réalité qui perdure sans vieillir. Suzanne est très heureuse d'être chez son frère, la photo posée sur l'étagère. Elle est contente parce qu'il y a ce rapport à la photo qui vient du père, ce père qui disait « Je vous immortalise ». Le père qui avait peur que ses photos soient perdues. Ces photos que l'amant mort déjà connaît. Et il dit « Je vous connais par elles ». Il a décidé un jour, j'ai su que c'était un moment important, qu'il voulait vivre avec moi, il m'a tout montré. Il a montré les photos et puis il a raconté. Il y a donc un relais assuré entre l'image, la photographie montrée, et puis l'histoire, ce qu'on raconte, pour dire la vérité des actes. Et puis parfois, eh bien, parce qu'il n'y a plus la photo, parce qu'il n'y a plus les mots, il y a ce qui reste à l'état de pensée. En plein cœur de l'évocation des rencontres passées, un garçon, tous les garçons, constatent. On peut le laisser, je pense. Le faire revenir rendrait plus incompréhensible encore le souvenir originel. Ce que Louis finit par énoncer, c'est, eh bien, non pas toutes ces rencontres, ces dialogues écartés, ces monologues entendus, ces monologues subis, ces moments de solitude, ces moments de perte de repère dans l'obscurité. Ce qu'il laisse entendre, ce qu'il ne laisse pas entendre, ce qu'il dit, c'est un cri, un grand cri. Celui d'avant la possibilité de formuler la phrase. Le cri de la naissance, le cri profond qui révèle de soi sans passer par le prisme déformant d'un langage clair. Ce cri-là, celui qui aurait pu enfin formuler l'indicible, ce cri qui fait résonner l'intime, ce cri, eh bien, il n'en garde que le souvenir de la pensée sans l'avoir fait entendre. Et le texte de théâtre, lui, eh bien, fait résonner dans l'espace et devant témoin l'ensemble de toutes ses pensées intérieures. Et pour conclure, je finis quand même, eh bien, la reconnaissance est renversement pour mettre à jour une vérité. Or, la pièce, eh bien, ne sépare radicalement pas la fiction du réel. Le début du texte apparente à une sorte de répartition des rôles. Chacun se présente par rapport à lui et en même temps s'intègre dans un collectif. Suzanne est la sœur, va jouer la sœur, elle endosse le rôle qu'on attend d'une sœur. Tous ces procédés de répartition, eh bien, s'apparentent au jeu beckettien, à tout ce qui peut redoubler la fiction. Mais qu'est-ce que c'est ce pays lointain? C'est celui de l'enfance, celui déjà éloigné de soi lorsque l'on se retourne pour le voir encore. Ce pays resté intact en soi-même que l'on retrouve, que la retrouvaille pourrait compléter, mais ce pays qui reste toujours à distance. Celui qui le retrouve est devenu un autre, un étranger à sa propre famille, et les autres ont vieilli, étrangers, à l'image gardée d'eux. Le retour creuse l'écart. L'évidence de l'impossible échange bloque une parole au bord des lèvres. La reconnaissance, donc, cette découverte pour les autres d'une part de soi, eh bien, elle devient impossible, ou peut-être se déplace-t-elle. Et c'est Louis lui-même qui découvre cette part de lui. Il dit, les personnages, tous les personnages, ceux qu'on rencontre, qu'on voit, qui interviennent, les personnages évoqués, leur voix, juste leur photographie, toute la multitude des gens rencontrés, croisés, une nuit, une heure, 10 minutes, juste un regard. On ne saurait les retenir. Le train redémarre et on ne saurait les retenir. Ou dans l'embrasure d'une porte, on passait à pied, trop tard, on voit l'autre, dans l'embrasure d'une porte, et jamais on ne retrouvera l'endroit exact. Dans cette dernière citation, Louis laisse entendre ce que l'on retient des autres, une image. On les voit. Une voix, on les entend. Le regard s'il s'approche. Des silhouettes entreaperçues et jamais la possibilité d'un contact qui pourrait se poursuivre. Ce rapport à l'autre est celui du spectateur devant l'objet observé. Mais comme l'image entreaperçue face au train qui démarre, eh bien le contact n'a pas le temps de s'établir. Si la métaphore du train restitue le mouvement de la vie, eh bien celui qui reste sur le quai ne parvient pas à poursuivre un voyage. Il est celui qui reste, avec le souvenir d'une image, tandis que les autres sont loin, vers d'autres vies, d'autres rencontres. Il est celui qui reste, avec un sentiment. L'impossibilité de les retenir, c'est-à-dire l'impossibilité de les arrêter dans leur mouvement, d'arrêter l'écoulement du temps. Dès le début de la pièce, Louis annonce qu'il a fait le chemin à l'inverse. Ce mouvement-là, eh bien, il pouvait laisser croire qu'il retrouverait les autres. Mais souvent, eh bien, c'est un retour vers le passé. Et quand on cherche à se rapprocher des autres dans le passé, on ne cesse de s'écarter d'eux. La connaissance de l'autre n'est peut-être qu'un mirage, jamais atteignable, une réalité impossible à saisir. Comme le dit le garçon, tous les garçons, une nuit, j'ai rêvé de toi. Et ce rêve aujourd'hui, le souvenir que j'en garde, ce rêve, est la plus grande vérité que j'ai de toi, et plus grande vérité encore que la vérité même. Le rêve de l'autre. Une image inconsciente est l'autre versant du réel. Alors évidemment, quand la limite du réel et du fictif s'estompe, vient au théâtre, le rapport à la langue prend le relais. Le personnage ne cesse de mieux maîtriser ou de mieux se dessaisir d'une parole qui échappe. Au-delà de ces rencontres familiales qui n'ont pas lieu, l'auteur ici joue d'une porosité, joue de la porosité des frontières pour mettre en contact famille, amis, personnages, acteurs, vivants, morts, dans un ensemble où la parole pourrait assurer une jonction fragile. Dès lors, la véritable reconnaissance, au sens aristotélicien, cette belle reconnaissance, ce retournement, est vouée à l'échec. Elle n'aura pas lieu parce qu'il y a une reconnaissance plus simple, une reconnaissance mutuelle qui est déjà difficile. Louis dit, on se parle, il a changé. Et je ne le reconnaissais pas. Et je termine, c'est promis. Je ne pense pas que de moi-même, j'aurais pu te reconnaître. Je ne te reconnaissais pas. Il faut me pardonner. Tu as changé. Lorsque tu m'as parlé tout à l'heure, je suis désolée. J'avais l'air de ne pas comprendre. Mais je ne comprenais pas. Je ne te reconnaissais pas. Il faut me pardonner, je ne comprenais pas. Reconnaître l'autre, c'est dépasser donc ce mur que le temps élève entre les êtres, le temps qui les fait différents, qui les sépare, irrémédiablement, faisant de chacun des loin des autres pour toujours. Et ici, ce temps lointain, c'est peut-être aussi la vie même. Alors il nous faut, eh bien, être gagnés par l'illusion, celle que nous offre le théâtre pour rejouer, je cite, la scène fondatrice, côte à côte, à nouveau, juste côte à côte, sans mentir, sans tricher, tout est exact.